les enfants et l'Évangile ont des affinités incroyables. Quelqu'un l'a dit avant moi. Hein. Je me suis dit, pour surfer un peu sur ce moment de grâce, je me suis dit qu'on pourrait organiser tous ensemble ce matin une séance de caté géante. Parce que Noël, c'est la fête des enfants, et que en nous sommeille toujours, je l'espère, un enfant. On va faire une séance de caté un peu à l'ancienne, vous savez, une bonne vieille séance de caté là, qui vous font peut-être encore des cauchemars la nuit. Hein. C'est-à-dire une séance où on va prendre le temps de lire la Bible, déjà. Et puis ensuite, on fera une séance de questions-réponses. Je dois vous avouer que j'ai un peu faussé la séance en donnant à quelques-uns d'entre vous, de faux catéchumènes, les questions que je voulais qu'ils me posent. Mais si une question vous venait spontanément et que vous ayez la simplicité de l'enfance de la poser, j'essaierai d'y répondre. Alors essayons, si vous spontanément, si vous voulez participer, essayons de poser des questions d'enfant. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai essayé d'en poser comme ça, vous verrez. C'est-à-dire des questions qui ont l'apparence de la simplicité et qui souvent commencent par le mot pourquoi, vous savez, les enfants. Pourquoi ? Eh bien, à vous de poser des questions que vous voulez. Stéphane.
Pourquoi Jésus est-il né en hiver? Il aurait sûrement eu moins froid s'il était né l'été.
Bon, Noël, bon, vous savez que ça tient naissance en latin, c'est toujours le 25 décembre, effectivement. Mais cette date, c'est juste un symbole. Parce que c'est à peu près le jour le plus court de l'année, en hémisphère nord. Alors c'est une date qui est bien choisie pour parler d'espérance, pour parler de l'attente, pour dire que l'enfant qui naît au cœur de la nuit apporte la lumière. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les bergers ne font jamais paître des troupeaux en plein hiver, où que ce soit. En réalité, on ne connaît pas la date d'anniversaire de Jésus. On sait juste qu'il est né, ça c'est plus sérieux, en 5 ou 6 avant sa naissance. L'Église des tout débuts ne fêtait pas Noël. Elle fêtait seulement Pâques et Pentecôte, surtout Pâques. C'était les fêtes juives, il faut dire. Et c'est quand le christianisme va devenir une religion d'État, 4e siècle, oui, c'est beaucoup plus tard, qu'on va essayer de christianiser un peu des vieilles fêtes païennes et on remplacera justement cette fête du soleil où on fêtait le solstice d'hiver, on va la remplacer par Noël. Finalement, on peut dire que Noël n'est pas un anniversaire, l'anniversaire de Jésus. Noël, c'est un message, c'est une conviction. Voilà comment je pourrais répondre à cette question très pertinente. On peut dire que c'est un sauveur qui nous est né, voilà l'essentiel. D'autres questions? Nathalie n'en fait pas trop quand même.
Pourquoi l'ange s'appelle Gabriel?
J'avais loupé une diapo. C'est vrai que presque tous les noms dans la Bible ont un sens, disent quelque chose. Et Gabriel, ça veut dire en hébreu le super-héros de Dieu. Un super-héros, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vient sauver les personnes qui sont en danger. Et Dieu est comme ça. Il vient au secours de notre monde qui a perdu son chemin,
qui est en souffrance. Et attention, parce que quand on parle de super-héros, je vois tout de suite certaines images arriver dans vos esprits, dans le mien. L'évangile, c'est pas Hollywood. Dieu ne nous sauve pas comme Superman, avec des super-pouvoirs. Gabriel, le super-héros de Dieu, est en fait un ange. C'est un mot en français qui nous, tout de suite, qui nous fait apparaître d'autres images. En fait, ça veut simplement dire, en hébreu ou en grec, ça veut simplement dire messager. L'ange, c'est le facteur de Dieu. Et c'est un facteur de la grâce. Il a rendu visite à Joseph, nous l'avons entendu tout à l'heure. Il rend visite maintenant à Marie, de la part de Dieu. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Voilà l'arme fatale de Dieu, sa parole. Il nous annonce une bonne nouvelle dans cette nuit, dans les ténèbres, et quand nous l'entendons, eh bien je crois que nos cœurs peuvent devenir plus grands, que nos pensées peuvent devenir plus généreuses, que nos vies peuvent devenir plus joyeuses. Avant, j'étais, et maintenant je suis. Avec le cadeau de Dieu, c'est ainsi que ça peut marcher. Et à chaque fois que nous annonçons l'évangile, en parole et en acte, nous devenons à notre tour des super-héros de Dieu, des Gabriel pour les autres. D'autres questions ?
Pourquoi il est né à Bethléem et pas à Jérusalem ?
Pourquoi il est né à Bethléem et pas à Jérusalem ? Bon, Bethléem, c'est la banlieue de Jérusalem, banlieue sud. C'est une zone où habitent des pauvres, des paysans, c'est juste à la porte du désert du Sinaï. Après, il n'y a plus rien. Il y a des familles modestes, des habitations pas du tout luxueuses. Et Jésus ne vient donc pas en roi. Il ne vient pas naître dans un palais d'or à Jérusalem, justement. Le prophète Michée, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avait pourtant prévenu qu'il se passerait quelque chose d'important dans ce coin paumé d'Israël. Et la prophétie de Michée est un peu différente de celle que nous avons lue dans Luc. D'ailleurs, celle de Luc est rapportée par des conseillers d'Hérode. On peut s'interroger sur la bonne lecture qu'ils ont faite de l'original, la parole du prophète Michée. Regardez. Et toi, Bethléem Ephrata, trop minable pour appartenir aux grandes familles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux temps d'autrefois. Bethléem, Daniel, c'est la minable. C'est Bethléem Ephrata en même temps, chez Michée, ça veut dire Ephrata, la féconde. La minable, la féconde. Paradoxal. Une prophétie à double sens. C'est un coin perdu, Bethléem, qui va devenir, dans la nuit de Noël, la porte d'entrée du salut pour notre monde. Bethléem, en hébreu, ça veut dire aussi quelque chose. Je vous ai prévenu, tous les noms en hébreu veulent dire quelque chose. Bethléem, ça veut dire la maison du pain, c'est la boulangerie. Ça veut dire la boulangerie. Il y a un petit Larsen, s'il vous plaît, là. Ouais. C'est ce bébé, là, qui est déposé dans une mangeoire. Il est bon. Il est bon comme le bon pain. Et si vous vous souvenez un petit peu, dans l'évangile de Jean, Jésus va dire quelque chose à propos de ce pain, va dire « Oui, je suis le pain de vie. » Tu te souviens de lui ?« Je suis le pain de vie destiné à quoi ? À la nourriture du monde. » Voilà pourquoi Jésus naît à Bethléem. C'est le signe
que Dieu veut nourrir le monde des pauvres, de sa présence et de son amour en Jésus. Ça va ? Une autre question ? Ah, alors, juste après, juste, tu gardes la tienne, et on va, alors là, par contre, c'est sans filet.
Pourquoi Dieu a attendu que Marie soit fiancée pour faire son accident ?
Pour faire ?
Son accident.
Ah, oui, ben je... C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Pourquoi a-t-il attendu ? Et peut-être aussi parce que, spontanément, comme ça, Dieu, nous l'avons vu dans un certain nombre de scènes, il engendre les convenances. Il dérange un petit peu l'ordre établi. Et ça, c'est peut-être un élément de réponse. Pourquoi a-t-il attendu qu'elle soit fiancée pour se révéler, pour révéler qu'elle allait être enceinte avant même d'être mariée? Parce que, et ça nous rapproche aussi en même temps de toutes ces personnes qui connaissent des difficultés de vie. Et je pense aux familles éclatées, je pense aux personnes qui ont des enfants toutes seules, je pense à toutes ces personnes qui peuvent être en difficulté de vie. Dieu les rejoint, Dieu les aime, Dieu leur parle.
Alors, pourquoi les bergers sont mis dans le coup par les anges ?
Pourquoi les bergers sont-ils mis dans le coup par les anges ? Je me sens plus à l'aise. Ta question me rejoint. Il faut que tu saches que les bergers avaient une mauvaise réputation. Ils étaient considérés comme des mauvais pratiquants. Ils ne respectent pas beaucoup les règles de la religion. Ils travaillent quand il faut aller au culte, parce qu'il y a leur troupeau. Ils ne respectent pas beaucoup les rituels. Ils ne se lavent pas les mains avant la prière. Ils ne font pas beaucoup le sabbat. À cause de leurs moutons, ils les soignent tout le temps. Mais la force du berger, c'est sa liberté, justement. Il prie quand il en a envie. Devant un beau coucher de soleil, par exemple, quand il a bien rangé son troupeau dans l'enclos, après une grosse journée de travail, il prie, il rend grâce à Dieu. Quand il voit une brebis qui met au monde un agneau, ça le remplit de joie, il dit « Merci Dieu ». La foi du berger est simple et forte. Il regarde la vie, le berger, la vie toute simple. Et puis aussi, le berger, c'est quelqu'un qui fait attention aux faibles, parce que son troupeau est fragile. Il sait très bien protéger, soigner, nourrir. C'est quelqu'un qui, derrière ses allures un peu de mauvais croyant, quelqu'un qui a du cœur. Et je crois que c'est pas un hasard si les bergers sont les premiers à recevoir la bonne nouvelle du ciel, des anges. Ils sont les premiers à reconnaître dans ce bébé, banlieusard, pauvre, le sauveur du monde. Ils auront même compris avant Joseph et Marie, qui pourtant sont le couple qui donne naissance à ce bébé. Donc vous voyez que les bergers sont en première ligne de la foi et de l'accueil du message de Dieu. Ils ont une spiritualité qui est belle, et dont on peut s'inspirer. Ils sont simples de cœur, comme Dieu est simple de cœur. Il veille sur nous comme un berger veille sur ses brebis. Et cette histoire de berger nous dit aussi que Dieu, comme pour ta question à propos de Marie, la fiancée, qui est mise en difficulté par l'appel de Dieu, eh bien, dans la société, ceux qui ont mauvaise réputation, ceux qui sont exclus de la société, ceux-là, Dieu les aime particulièrement parce qu'ils leur ressemblent. N'oublions pas ce que Dieu aime aux pauvres. Ça va ?
Pourquoi finalement toute cette scène se passe dans l'obscurité ? Qu'est-ce que
cache, enfin, qu'est-ce qui symboliserait l'obscurité?
Là aussi, ce qui est dans la pleine lumière des médias, dans la pleine lumière de tout ce que tout le monde connaît par cœur, ça n'intéresse pas Dieu. Ce sont des choses que les gens se répètent, se donnent les uns aux autres sans même y réfléchir. On a vu tout à l'heure un jeune qui lisait la Bible merveilleusement autour de ce cadeau, mais qui lui était en pleine lumière, sauf qu'il était dans l'obscurité. Dieu vient la nuit parce que finalement, personne ne reçoit son message. Et là, dans le secret des cœurs, dans l'intimité, il va se révéler. Il ne le fait pas au grand jour, sinon notre monde serait déjà convaincu. Nous avons un témoignage à faire dans cette obscurité, encore aujourd'hui. Une autre question?
Et pourquoi trois rois mages?
Ah, on en vient aux rois mages. Eh bien, Marie-Claire, tu n'as pas fait attention à la lecture. Ils ne sont pas trois. Ils ne sont pas rois. Regarde. On dit des savants, mais c'est vrai que le terme, c'est vraiment les mages. Voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question, ce sont qui ces mages, ces savants? On va dire, vite fait, avec aussi le doute qu'on a, parce que c'est tellement ancien qu'on est là que sur des hypothèses, bien sûr. Ce sont des astrophysiciens, mathématiciens, un peu médecins aussi, sur les bords, et puis pas mal versés dans l'astrologie, dans la voyance, hein, et l'astronomie aussi. Enfin, ils mélangent un petit peu toutes les sciences, ce sont des chercheurs de ce temps-là. Combien sont-ils? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent de l'Est, du Levant. Moi, je vois un petit peu ce que c'est. C'est la Syrie, c'est l'Irak et l'Iran. C'est beaucoup plus tard, hein, en fait, au Moyen-Âge, qu'on va leur donner le titre de roi, et puis encore plus tard, des noms, et puis encore plus tard, même des couleurs de peau. On aura ajouté comme ça, tout au long de l'histoire, toute une mythologie autour des rois mages, des trois rois mages. En réalité, la Bible ne raconte rien de tout cela. Donc voilà un petit éclaircissement. Ça te va? Une dernière question, peut-être? Parce qu'il est tard, hein.
Bon, ok, je vais faire la dernière
question. Ah.
Alors, pourquoi Dieu appelle des païens astrologues à venir à l'adorer?
Ouais. Ce que viennent faire ces gens bizarres là, dans la première église à Bethléem, hein, on se demande. Eh bien, cette histoire de mages venus d'Orient, elle fait penser à une autre histoire dans la Bible qui est pas très bien, qui est très connue, mais qu'on ne rattache pas souvent à cette histoire de mages. Rappelez-vous, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et il le conduit dans le désert vers la terre promise. En route, il va rencontrer tout un tas de problèmes. Il va rencontrer notamment un méchant roi qui porte le nom de Balak. Et ce Balak a pour projet d'anéantir le peuple d'Israël et Moïse. Alors, pour faire du mal aux Hébreux et à Moïse, le roi Balak va imaginer une stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir un mage venu d'Orient, comme dit le texte des Nombres, qui s'appelle Balaam. Et il lui demande de jeter un mauvais sort à Moïse et au peuple d'Israël. Balaam, c'est un sorcier, c'est un enchanteur, c'est un étranger au peuple d'Israël qui vient comme ça avec ses connaissances, ses croyances religieuses, faire du mal. Mais le texte nous dit, et là c'est un rebondissement extraordinaire, que Balaam, au lieu de maudire Moïse et son peuple, va se mettre à prendre leur défense et à prophétiser. Lisez hein, cette histoire de Balaam au chapitre 22, 23, 24 du livre des Nombres. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va parler d'une semence, d'un règne puissant sur de nombreux peuples. Et il dit ceci: je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. De Jacob monte une étoile. D'Israël surgit un homme. Voilà ce qu'a dit Balaam. Vous vous rendez compte? Cette profondeur de sens d'un seul coup que nous voyons émerger de la nuit des temps jusqu'à cette crèche de Bethléem. Balaam, le voyant, le païen, a prophétisé la venue du Sauveur. Ce sont encore des mages, des voyants, des païens qui, comme lui, sont venus de loin en suivant leurs calculs, leurs croyances religieuses, et qui finissent par trouver le Seigneur. Dieu se révèle en Jésus dans la nuit des religions aussi. Noël, c'est l'appel de Dieu à tous les hommes. Et ceux qu'on pourrait croire les plus éloignés deviennent maintenant les plus proches, les intimes de Dieu. Et les mages, eh bien, ce sont nos ancêtres, ce sont nos frères. Et quand je vois comment cette église est composée, vous venez, nous venons des quatre coins de l'horizon, de l'Afrique, et même Christine est au Liban aujourd'hui, et d'autres viennent peut-être du Nord et d'autres de l'Ouest. Nous formons une église ici. Ce sont, oui, ces mages, nos frères, nos amis, nos ancêtres dans la foi, comme Marie, Joseph, Simeon, comme les bergers, leur adoration, c'est la nôtre, encore aujourd'hui.